Le journal Josette Sédoux, bonsoir.
Bonsoir. Elle a perdu toutes ses économies. Une habitante de Saint-Imier s'est fait voler par des faux policiers. Les arnaques sont parfois tellement bien menées qu'elles sont difficiles à repérer. On en parlera avec le témoignage de la victime. Bien accueillera un centre de retour pour les requérants d'asile déboutés. Ça sera au Quai du Bas, en lieu et place de l'actuel à Bellay. L'avenir du futur bâtiment de justice et police de Reconvilliers est entre les mains du Grand Conseil. On fait le point sur les discussions sur le budget du canton. Et puis météo, quelques gouttes pourraient tomber cette nuit et demain on revient au sec avec de belles éclaircies possibles, un ciel changeant et peut-être quelques giboulées. Voilà le menu pour demain. J'aurais pu me rendre compte que ça ne jouait pas, mais j'ai fait tout ce qu'on me disait. Ce mardi, Jeannine Favre, 92 ans, a été victime d'une arnaque à son domicile de Saint-Imier. Deux personnes se sont faites passer pour de faux policiers. Cet incident, en plus de l'avoir profondément bouleversé, lui a fait perdre toutes ses économies. Une perte financière colossale qui représente aussi à ses yeux la fin de ses projets d'avenir et ceux de ses petits-enfants et de ses enfants. Estelle Herman vous retrace le déroulement de cette arnaque.
Mardi passé, vers 19h, Jeannine Favre reçoit un appel.
On m'a averti que c'est la police qui me téléphone et que c'est ma carte de crédit qui est en danger parce que des personnes pouvaient trafiquer avec ma carte de crédit et que ces personnes-là étaient au poste de police en train d'être interviewées et qu'il fallait pouvoir les condamner. Si j'abandonnais le téléphone, je pouvais téléphoner à ma famille, mais ce n'était pas possible et je devais garder le téléphone.
Le soi-disant policier lui explique que sa carte de crédit n'est désormais plus valable. Il lui donne un nouveau code qu'elle doit noter sur une feuille. Mais pour le changer, il lui faut l'ancien. Jeannine Favre le lui donne. Ce n'est toutefois que la première partie de l'arnaque, car il la prévient qu'une policière se rend à son domicile et qu'elle attend devant la porte.
Une dame s'est présentée en habit comme les policiers, mais pas tout à fait quand même, habit foncé, et puis elle avait un smartphone qu'elle a ouvert et présenté devant elle, où il y avait la croix suisse, c'était marqué « police ». Donc c'était la preuve pour moi qu'elle était vraiment de la police. J'ai cru en elle. Je l'ai laissée entrer et elle m'a dit que quelqu'un avait pu pénétrer chez moi et m'avoir volé de l'argent qu'il fallait maintenant contrôler.
Dans son bureau, l'Imérienne gardait quelques centaines de francs de réserve. Elle vérifie toutes les deux que tout y est. La policière lui demande ensuite s'il y a encore d'autres cachettes.
J'ai dit oui, j'ai de l'argent de réserve pour ma vieillesse dans un coffre. Alors il faut vérifier, qu'elle m'a dit. Vraiment, je ne comprends pas. Je suis allée chercher la clé de ce coffre, que seule connaissait l'endroit où je la mettais ma fille, parce que c'était tout marqué dans mon testament. Et j'ai ouvert le coffre et elle s'est mise à regarder ce qu'il y avait dans le coffre et en sortir des billets de banque. Il y avait aussi des pièces d'or. On a sorti ça, elle a tout mis dans une enveloppe, elle a ramassé les pièces d'or qu'elle a mis dans une enveloppe, puis elle m'a dit maintenant on se reverra au poste de police parce que c'est là que les choses vont se terminer et on vous rendra tout ça.
Là commence une longue attente pour Jeannine Favre, toujours au téléphone avec l'un des faux policiers. Il continue à lui parler et à lui demander de rester en ligne. Il lui promet qu'une voiture arrivera bientôt la chercher.
C'est vers 8h du soir qu'il m'a dit qu'ils vont arriver vers 8h20. Parce que j'insistais pour savoir mais à quelle heure ils arrivent. Puis là, je commençais à douter. Et je disais, je voudrais téléphoner à ma fille. Ah non, non, c'est pas possible. Vous devez rester parce qu'on a besoin d'un suivi avec vous. Un peu avant 8h20, j'ai compris qu'il ne viendrait pas.
Jeannine Favre n'est pas la seule à s'être fait duper mardi passé à Saint-Imier. La police cantonale bernoise confirme un autre cas. Une enquête est en cours.
C'était un dossier d'Estelle Herman. Jeannine Favre, 92 ans, nous livrait son témoignage sur l'arnaque au faux policier dont elle a été victime à son domicile. Retrouvez sur notre site internet les conseils de la police cantonale. La vraie cette fois pour éviter ce type d'arnaque. Bienne va accueillir un centre de retour pour les requérants d'asile refoulés. Il sera situé au Quai du Bas 30 dans un immeuble immobilier appartenant au canton. Nous apprenons aujourd'hui le service d'immigration bernois dans un communiqué. Ce nouvel établissement prendra le relais du centre d'accueil familial de Bellay, car celui-ci fermera en août 2025. Les précisions de Marceline Michon.
Ce centre de retour pourrait accueillir au maximum 66 enfants, parents et femmes seules dont la demande d'asile a été rejetée. Le canton de Berne a déposé une demande de permis de construire. Pourquoi à Bienne ? Le canton dit vouloir maintenir les enfants dans une école francophone après une décision d'asile négative. Alors que l'hébergement collectif devait initialement prendre place dans l'ancienne EMS du Ride, le conseil municipal biennois a ainsi pris acte de l'intention du canton de Berne de réaliser ce centre au quai du Bas. Les autorités de la ville ne s'opposent pas à un tel projet sur le territoire communal, mais ne souhaite pas héberger plus de personnes issues de l'asile à long terme. La part de cette population est déjà relativement élevée, estime l'exécutif biennois.
Une étude de la ville de Bienne déterminera si la législation sur les constructions permet d'utiliser l'immeuble en question comme centre de retour. En cas de réponse positive, celui-ci pourra ouvrir vers la fin de l'été 2025, selon la planification actuelle. Une bagarre a fait un blessé grave ce week-end à Bienne. C'est ce qu'on apprend aujourd'hui de la police cantonale bernoise. Des témoins ont vu deux personnes en venir aux mains peu avant 3h du matin à la rue centrale. La police a retrouvé l'un des deux individus grièvement blessé. Il a été emmené à l'hôpital tandis que l'auteur des faits a été appréhendé quelques heures plus tard. Il a reconnu les faits. Une enquête est en cours. Dès jeudi, à Bienne, c'est l'ouverture du 32e marché de Noël. Les exposants seront nichés dans 80 chalets illuminés de l'intérieur tout au long de la rue Nidau. La nouveauté cette année, en plus du traditionnel stand de la bourgeoisie de Bienne, un coin détente sera installé à l'angle de la rue Ernst Schuller avec des bancs et des stands de restauration. Le marché s'agrandit petit à petit, loin de sa taille originelle d'il y a 32 ans. Peter Schmid, président de la guilde de la rue Nidau, qui organise le marché de Noël.
Oui, il y a 32 ans, on a commencé tout petit, 5 jours, avec environ 20 chalets. Et après, la rue Nidau est devenue piétonne et on pouvait agrandir la durée un maximum de 3 semaines. Et aussi, le nombre des chalets, on a pu augmenter à 80 pièces.
C'est assez important, la tradition dans un marché de Noël. Mais est-ce que vous pensez qu'on doit se renouveler ?
Non, je crois que la tradition doit rester. Les gens aiment de venir et de profiter de l'ambiance de Noël et aussi pour s'asseoir et consommer de la nourriture et des boissons de Noël, oui.
C'est quoi l'ingrédient magique qui va faire que les gens vont venir ?
Oui, c'est illumination à Bienne, illumination de Noël. C'est unique à Bienne, hein. Il n'y a pas d'autre place avec une illumination comme chez nous. Et aussi après l'odeur du vin chaud et l'odeur des saucisses, et ça va attirer des gens à Bienne, là je suis persuadé.
Et ce jeudi, les enfants ont rendez-vous avec le Saint-Nicolas et son âne entre 14 et 18 heures sous le sapin à la place centrale de Bienne. Le Grand Conseil discute du budget cantonal, pardon. Les débats ont démarré cet après-midi au Rathaus et doivent s'étaler jusqu'à demain. L'avenir du futur bâtiment de justice et police de Rancourvilliers, excusez-moi, est directement impacté par ces discussions. Résumé avec Anthony Montandon.
L'endettement du canton ne devra pas dépasser les 500 millions de francs. Une vision proposée par la Commission des Finances qui a été validée par le Grand Conseil ce lundi. Mais évidemment, une telle limite ne se fera pas sans l'abandon et le report de certains projets. Le bâtiment qui doit voir le jour du côté de Reconvier est directement visé. Pour la Commission, il convient de reporter ce projet de 10 ans, une vision partagée par le Conseil exécutif qui souhaitait malgré tout pouvoir s'endetter davantage. Une troisième version, également proposée par le gouvernement bernois, tablait sur un abandon pur et simple. Rien n'est encore gravé dans le marbre, il faudra voir quels investissements les élus sont d'accord de soutenir. Et la députation francophone montera au créneau si le report de 10 ans est validé pour le bâtiment de Reconvilliers. Elle demandera de réduire ce délai de moitié. Si le reste du Grand Conseil ne la suit pas, elle proposera alors d'opter pour une autre solution, celle de répartir justice et police à Tavannes et Lovresse.
Merci Anthony. L'Union démocratique du centre gagne encore des électeurs, c'est ce que montre le dernier baromètre électoral de l'Institut Sotomo, publié aujourd'hui. Plus de 4000 personnes ont été interrogées sur leurs intentions de vote, pile une année après les élections fédérales, et leur choix se porte toujours davantage à droite. Les précisions de notre correspondante parlementaire Marie Vieumier.
Si de nouvelles élections fédérales avaient lieu aujourd'hui, l'UDC gagnerait 2% de part électorale et frôlerait les 30%. Ce serait le meilleur score de son histoire et aucun autre parti ne progresserait. Les libéraux radicaux et le centre resteraient au coude à coude. Les socialistes et les verts perdraient chacun 0,5% de part électorale, alors que les verts libéraux verraient leur électorat fondre de 1%. Un glissement du Parlement vers la droite qui reflète la tendance européenne où règne un état d'esprit de plus en plus conservateur, constate Sotomo. L'enquête montre que même si la gauche a remporté plusieurs votations populaires depuis le début de l'année, elle ne parvient pas à convaincre les citoyens lorsqu'il s'agit de l'élire au Parlement fédéral. Pourtant, la préoccupation majeure de la population reste, et de loin, la hausse des primes maladie. Suivent l'immigration, l'asile et le climat.
L'enquête de Sotomo s'intéresse aussi à la popularité des conseillers fédéraux. Albert Rushdie est considéré à la fois comme le plus sympathique et le plus compétent. Guy Parlemelin arrive quatrième des deux catégories. Et Elisabeth Baumschneider arrive dernière du classement pour son influence, avant-dernière pour sa sympathie. L'UDC semble toujours avoir le vent dans le dos. Le parti serait à nouveau le grand gagnant des élections fédérales si elles devaient se tenir cet automne. C'est ce que met en avant un sondage. L'UDC augmenterait sa part électorale de 2 points. Il afficherait quasiment 30% des voix. Les autres partis obtiendraient un résultat proche de celui de l'année passée. Et puis le PS se classerait deuxième avec un léger recul de 0,5%. L'ONU a qualifié aujourd'hui la situation à Gaza d'apocalyptique. Son secrétaire général Antonio Guterres a souligné la nécessité urgente d'une action. La famine est imminente, le système de santé s'est effondré. Il ajoute que Gaza compte désormais le plus grand nombre d'enfants amputés par habitant au monde, avec beaucoup d'entre eux subissant des opérations chirurgicales sans même d'anesthésie. Aux yeux de l'ONU, exposer les Palestiniens aux conditions auxquelles ils sont confrontés pourrait s'apparenter aux crimes internationaux les plus graves.
18h12 sur RJB.
Sport.
On parlait de Jere Salinen, l'attaquant du HC Bienne qui a été sélectionné pour jouer le tournoi amical de l'Euro. Et puis il retrouvera 8 autres joueurs de National League de hockey sur glace dans les rangs de la finale. La Suisse défiera l'Espagne au premier tour de la Coupe Davis de tennis. Le tirage au sort a eu lieu aujourd'hui. La rencontre se jouera entre le 31 janvier et le 2 février. Elle pourrait se tenir à Bienne, mais ce n'est pas encore validé par Swiss Tennis. Et puis des nouvelles rassurantes quant à l'état de santé d'Eduardo Bove. Le joueur de la Fiorentina était conscient ce matin d'après les médias italiens. Le footballeur transalpin s'était effondré hier en plein match contre l'Inter Milan. Il avait été admis à l'hôpital de Florence où les premiers examens ont conclu une lésion aiguë du système nerveux central et du système cardiovasculaire. Voilà, merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très belle soirée.